Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec 4 personnes, à commencer par Déborah Gazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuelle directrice de la VAD.
Oui, tout à fait.
Ensuite, Denis Hiller.
Bonjour.
Vous serez le futur jeune directeur de la VAD.
Tout à fait.
Mylène Moucheron, bonjour. Vous êtes vice-présidente à la CCD et vous êtes en charge de la petite enfance et de la jeunesse. Enfance-jeunesse. Et ensuite, Anouk Avon, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes donc coordinatrice enfance-jeunesse à la communauté de communes du Diwa.
C'est ça.
Alors tous les quatre, vous êtes ici pour nous parler un peu de l'actualité qui concerne particulièrement la garde à domicile. Et puis on ira aussi un petit peu sur les crèches, non, il me semble bien. Et puis, quelle autre actualité à venir, Anouk ?
Il y a aussi le développement de maisons d'assistantes maternelles. Il y a une première maison d'assistantes maternelles qui est en projet pour une ouverture à la rentrée. Et donc, ces jours-ci, la commission d'action de la PMI va pouvoir dire si oui ou non, elle va pouvoir ouvrir au mois d'octobre.
Pour commencer, nous allons nous tourner vers Déborah Gazi par rapport à la VAD. Qu'en est-il actuellement de la VAD, de cette association ?
Alors, donc, l'association Vivre à domicile est née de la fusion entre l'ancienne ADES et l'association d'aide à domicile d'Oust. Actuellement, on intervient auprès de 650 bénéficiaires avec 85 salariés répartis sur l'ensemble du Diwa et une partie du Crétois. On a eu notre assemblée générale le 19 juin dernier. Et pour l'année 2017, on a la chance de pouvoir annoncer un résultat positif de 17 000 euros, donc un résultat lié à l'exploitation, mais inhérent en fait à l'impossibilité de remplacer des salariés absents sur l'équipe administrative. Voilà, donc c'est pas un résultat structurel. Toutefois, on est content d'être enfin à l'équilibre et ça nous permet de maintenir une partie des usages salariés qui sont l'indemnisation de certains déplacements et qui leur permettent d'intervenir chez des bénéficiaires qui sont isolés, y compris quand le temps d'intervention est assez réduit.
On pourrait peut-être définir aux auditeurs ce qu'est la VAD, comment cette association fonctionne, qui s'en sert ?
Alors, on est donc une association d'aide et de services à domicile. On intervient chez des personnes âgées, isolées, en perte de dépendance ou des familles qui ont besoin d'une aide parce qu'elles sont dans une difficulté temporaire ou une aide de façon plus... Voilà, juste pour aider au quotidien. On a des salariés qui sont formés et expérimentés. Alors certaines ont des diplômes qui sont reconnus par l'État, donc des auxiliaires de vie ou des employés à domicile. Et puis des bénéficiaires qui n'ont pas une formation qualifiante, toutefois qu'on forme en interne pour pouvoir intervenir auprès des différents publics.
Par rapport à la VAD, le contexte, on ramène le contexte aussi, c'est un manque de place sur le canton de Die. Est-ce que la VAD est touchée justement par ce manque de place ou ces manques de services ?
Alors, on reçoit de plus en plus de demandes de la part de bénéficiaires avec des plans d'aide qui sont réduits par rapport à il y a quelques années. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on optimise chacune des interventions. Les demandes sont de plus en plus fortes. Hein, les personnes restent vivre à leur domicile de plus en plus longtemps. Et en même temps, on a des difficultés à recruter. Alors à recruter tout court, hein, des salariés qui n'ont pas forcément une formation qualifiante à la base. On a également des difficultés à trouver des salariés diplômés AVS pour pouvoir intervenir les week-ends auprès des publics les plus dépendants. Et puis sur des interventions spécifiques également, où on ne s'attendait pas forcément. Mais je prends l'exemple pour de la garde à domicile. Sur certains secteurs isolés, on a du mal à recevoir des candidatures malgré les annonces, malgré notre réseau. Voilà. Donc aujourd'hui, si des personnes recherchent un emploi, sont intéressées par les métiers de l'intervention au domicile, hein, que ce soit pour des personnes âgées, handicapées ou en perte de dépendance ou de la garde d'enfants, n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées.
À peu près combien de temps que dure ou qu'existe cette carence en personnes qualifiées ?
Alors, la difficulté, moi depuis que je suis en poste, on l'a toujours eu par période. Aujourd'hui, ça fait vraiment 2 ans qu'on a des difficultés toute l'année à recruter. De plus en plus. Alors le secteur de l'aide à domicile, qui est pourtant un secteur très, très demandeur, hein, d'une manière générale, à ces difficultés-là. Sur le territoire de la Drôme, c'est encore plus flagrant. Et c'est vrai que plus on est sur un secteur géographique éloigné, plus c'est compliqué. Donc le DIWA, en l'occurrence, c'est particulièrement compliqué.
Le personnel qualifié peine-t-il aussi peut-être à venir s'installer dans le DIWA s'il en manque ?
Alors, il y a peut-être que c'est pas tellement une question de venir s'installer dans le DIWA. Nous sommes sur des emplois qui sont pour la plupart du temps à temps partiel. Bon, avec malgré tout des niveaux de rémunération, en tout cas, qui sont pas assez valorisés. Même si on rémunère à hauteur de la convention collective aujourd'hui ne permet pas une rémunération suffisante pour que quelqu'un se dise « je vais aller m'installer sur un territoire pour trouver ce poste-là ». Généralement, ce sont soit des gens qui sont déjà installés, soit des gens qui suivent un conjoint. Bon, en plus, on est beaucoup sur des temps partiels. Donc, entre guillemets, le projet de déménager pour venir travailler au sein de l'association, malheureusement, aujourd'hui, il me semble difficilement envisageable. Après, c'est aussi, on est aussi sur des secteurs, et je pense, La Motte, Rémusat et Saint-Nazaire-le-Désert, pendant des mois, on a cherché, par exemple, des salariés à recruter localement, puisqu'on recrute, en fait, au plus proche des besoins. Mais après, ce sont des secteurs où il y a très, très peu aussi de population active au vu des besoins qu'il y a.
Denis, ça va être un gros travail pour vous. Donc, en tant que futur directeur, est-ce que vous envisagez des solutions ?
Les solutions, elles ont déjà été plus ou moins envisagées. On va essayer de développer la partie communication. On va peut-être s'intéresser à la partie formation, tout ce qui est diplômant qui pourrait nous amener des nouvelles personnes. Essayer aussi de faire monter en puissance les personnes que nous avons chez nous dans le cadre d'une formation interne. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé. Je vais essayer d'appuyer ça, mais effectivement, le problème principal de Laval, ce n'est pas son activité parce qu'elle en a, c'est tout simplement trouver des personnes qui veuillent venir travailler chez nous et dans le secteur du DIWA principalement, puisque c'est la majorité de notre activité. Donc on va essayer d'avancer, je vais essayer de monter quelque chose dans ce sens et solliciter tout ce que je peux pour trouver un peu plus de personnel et surtout qualifié, très important pour moi.
La VAD, on peut citer combien de personnes sont aidées par ce service ?
Aujourd'hui on a 650 bénéficiaires et on a en face 85 salariés.
Ce qui fait léger quand même par rapport au territoire étendu.
Ah, tout à fait.
Ensuite, nous allons passer à Mylène Moucheron. Donc, vous êtes vice-présidente à la CCD et vous êtes responsable de la petite enfance et enfance jeunesse. Et donc, vous êtes plutôt sur le domaine des crèches, hein, et de la petite enfance. Donc, et là, par exemple, la nouvelle crèche de Die, elle sera prête pour quand ?
Donc, je vais juste resituer au niveau de la communauté de communes. Nous avons la compétence petite enfance depuis 2007. Donc, nous sommes dans un territoire très étendu de 51 communes. Nous avons 7 multi-accueils donc, qui accueillent les petits de 0 à 3 ans et 35 assistantes maternelles sur l'ensemble du territoire. Malgré cette, ce nombre, parce que nous sommes quand même, nous offrons pas mal de places dans le DIWA au niveau de la petite enfance, mais malgré ça, nous avons eu des remontées de parents, d'associations qui nous font remarquer que beaucoup d'enfants ne sont pas pris en charge. Il reste à peu près 25 places sur le DIWA, dit et Luc uniquement, à trouver. Voilà. Donc la communauté de communes a souhaité avoir une politique proactive par rapport à la petite enfance. Nous avons fait, donc nous avons l'expérience, l'action expérimentale avec la VAD pour la garde à domicile. Nous avons le projet aussi de suivre les mâmes, les maisons d'assistantes maternelles et d'étendre l'expérience. Et nous avons en développement le multi-accueil de Die, donc notamment, qui passerait d'à peu près 20 places à 30. Enfin, la nouvelle structure pourra accueillir entre 32 et 36 places maximum. Voilà. Et normalement, on pourra voir ce beau projet sortir de terre juillet 2020, si tout se passe bien.
Un long chantier, donc, hein ?
Tout à fait, très long chantier, oui, parce que je pense que c'est dans les tuyaux depuis pas mal d'années, et là, enfin, ça se concrétise.
Alors, je voulais savoir, par rapport au gouvernement qui amenait peut-être la scolarité à 3 ans, est-ce que ça, ça va vous soulager dans votre activité ?
Non, ça ne changera pas vraiment au niveau des multi-accueils, parce qu'actuellement, vraiment, la population qui est accueillie, ce sont les 0-3 ans, déjà, de toute façon, quoi. Donc, et puis, parfois, il y a les mercredis après-midi, où il y a des enfants un petit peu plus grands qui peuvent accéder au multi-accueil jusqu'à 6 ans, mais par rapport au taux d'occupation, en tout cas, dans nos crèches, ça ne changera pas la problématique, non.
Anouk, vous-même donc êtes en charge aussi à la communauté de communes. Vous êtes coordinatrice donc de l'enfance jeunesse.
Oui, c'est ça.
Et vous avez un regard sur tout le territoire de ce qui s'organise auprès de l'enfance et de la jeunesse.
Oui. Donc au niveau sur le thème qui me concerne là ce matin, c'est la petite enfance et le manque de place sur le territoire par rapport à la garde d'enfants de 0 à 3 ans. Et du coup, en effet, avec les 7 multi-accueils et les multi-accueils et micro-crèches et les 35 assistantes maternelles en activité, il y a un maillage assez important, mais néanmoins, il manque de place, ce qu'a dit Marie-Hélène précédemment. Et du coup, il fallait pouvoir intervenir de manière réactive, parce que tout projet, on l'a vu par rapport au temps pris par un projet d'extension de bâtiment comme celui de la crèche de Die, tout projet qui touche les questions de bâtiment est un projet assez long. Donc là, il s'agissait d'être plutôt réactif par rapport aux besoins. Et donc, il y a deux objectifs à ce constat-là. Il y avait deux voies possibles pour répondre à ce besoin. C'est donc de travailler sur la garde à domicile et puis travailler sur une aide au niveau des maisons d'assistantes maternelles. Donc, sur la question de la garde à domicile, on a donc deux... Donc, il manque de place globalement sur le territoire et il manque aussi d'offres vis-à-vis de besoins spécifiques sur le territoire. On a des personnes qui travaillent avec des horaires décalés, hein. Ça peut être le matin pour des gens qui vont travailler en agroalimentaire, à la mise en rayon, ou qui vont être facteurs, ou qui vont travailler dans la santé. Ou le soir, de la même façon, ça peut être les commerçants également qui ferment à 19h alors que les structures, pour la plupart, ferment à 18h ou 18h30. Et puis, en dehors des horaires, il y a aussi la question des périodes. Il y a des personnes qui travaillent du tourisme, donc qui vont plutôt travailler sur le mois d'août. Les structures, pour la plupart, sont fermées. Les assistantes maternelles, pour la plupart, prennent leur congé sur cette période-là. Donc voilà, il a fallu aussi réfléchir à un système qui permette de répondre à ces besoins spécifiques, ce que peut offrir la garde à domicile. Donc la garde à domicile, c'est une piste qui n'est pas nouvelle, hein, ça existe depuis longtemps. On peut employer une garde à domicile de manière directe, c'est-à-dire que la famille emploie une personne directement qui garde son enfant à domicile, ou on peut employer via une structure, un organisme prestataire, ce qui est le cas de la VAD, qui peut offrir ce service-là de garde à domicile. Et donc c'est dans cette voie-là qu'on a voulu travailler. Donc travailler dans deux sens, hein, on a vu par rapport au constat, c'est qu'il manque de place et il manque d'offres sur des besoins spécifiques. Donc l'idée, c'est d'aider financièrement en complément des aides qui existent déjà, hein, de la part de la CAF, de la MSA et du crédit d'impôt. En complément de cette aide-là, aider les familles pour que le coût résiduel soit moins important. Aujourd'hui, un des freins pour aller sur de la garde à domicile, c'est le coût résiduel pour les familles. Donc l'aide communauté de communes permet de baisser ce coût résiduel. Et donc l'objectif, c'est d'aider les familles qui vont faire de la garde à domicile partagée, de manière à baisser de nouveau le coût résiduel. Et on a entendu qu'il y avait des soucis de personnel. Il n'y a pas suffisamment de personnel par rapport à ce besoin-là. Donc de partager, ça permet de mutualiser un professionnel enfance sur un des domiciles des familles. Et donc d'aider de la garde à domicile ou d'aider les horaires atypiques. Voilà, donc c'est l'aide, la communauté de communes intervient dans ces deux directions.
Alors, ces assistances ou d'aide à domicile ont besoin peut-être pour retrouver des personnes qui pourraient exercer. Vous avez peut-être besoin d'informer ou de promouvoir ces activités. Comment vous vous y prenez ?
Alors, sur la promotion en direction des personnes qui pourraient travailler. Alors il y a une première chose, c'est donc au niveau du relais assistante maternelle qui est le lieu, donc c'est Christelle Arnaud-Rib qui est l'animatrice du relais assistante maternelle, c'est le lieu auprès de qui les parents doivent s'adresser pour tout besoin, que ce soit en amont d'une réflexion de je sais pas si je vais confier mon enfant, je sais pas à quel moment, etc. par rapport à la reprise de mon travail, de pouvoir discuter à ça, de savoir quelle orientation, qu'est-ce qui existe sur le territoire, de savoir de quelle manière prendre contact avec quelle assistante maternelle et enfin de quelle manière prendre contact avec une garde à domicile. Donc Christelle Arnaud-Rib au relais assistante maternelle a la liste des personnes qui peuvent faire de la garde à domicile de manière directe. Ensuite, l'autre manière pour les familles, c'est d'aller donc à la VAD, d'exprimer leurs besoins. Et la VAD fait en effet les annonces dont Déborah a parlé dans l'interview précédemment, fait les annonces pour pouvoir trouver en effet les employés en face des besoins qu'auront exprimé les familles.
Vous parlez aussi de baisser le coût résiduel pour les familles. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'auditeur, baisser le coût résiduel ?
Alors aujourd'hui, sans l'aide de la communauté de communes, le coût résiduel pour la garde à domicile pour un certain nombre d'heures, disons que pour les heures aidées, alors je vais rentrer un petit peu dans la technique, on va voir si ça passe, mais pour les heures aidées par la CAF et la MSA, au maximum d'heures aidées, ça revient à 3 euros par heure de garde à domicile, donc ce qui reste assez élevé puisque la moyenne des crèches du DIWA c'est 90 centimes par heure de garde, donc on a un delta qui est important. En effet, une famille aura plus envie d'avoir une place à la crèche que d'avoir accès à ce dispositif. Néanmoins, dès lors que c'est partagé, on baisse le coût à 1,50€ par heure. Donc déjà là, on voit que c'est vraiment intéressant de se regrouper sur ses besoins, de partager un emploi, une garde à domicile pour plusieurs enfants, pour deux enfants notamment. Et puis avec l'aide de la communauté de communes, on arrive à atteindre du 1,20€ par heure aidée de garde à domicile. On rappelle que c'est un crédit, hein, ce n'est pas une déduction d'impôt. Donc même les personnes qui ne touchent pas, ne payent pas d'impôt, touchent cette somme l'année suivante. Alors touche, sauf qu'il y aura des prélèvements maintenant, mais voilà, donc en clair, c'est une recette, enfin, ils vont bien avoir cet argent-là restitué d'une manière ou d'une autre par l'État.
Et puis, la nécessité aussi d'être au plus près du DIWA et des DIWA, et donc à savoir comment réagir par rapport à des besoins qui peuvent être même imprévus, notamment les nouveaux arrivants sur le territoire, et puis la natalité qui se développe aussi, non ? Est-ce qu'il existe des outils pour anticiper ce genre de problématiques ?
Mais en fait, nous avons le relais d'assistante maternelle, nous avons des éléments qui peuvent nous indiquer la hausse de natalité, par exemple, les besoins des nouvelles familles. Les nouvelles familles viennent à la communauté de communes demander où on peut accueillir leurs enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des remontées ou par les parents ou par les associations donc le multi-accueil, ou par le relais des assistantes maternelles qui servent un peu d'observateur, en tout cas d'observatoire au niveau du DIWA pour cette problématique. Et puis nous avons des chiffres aussi au niveau de la natalité quand même, dans les écoles sont aussi des observatoires qui peuvent nous faire remonter des données, en tout cas oui, tout à fait.
Donc, on a un observatoire qui permet en effet de regarder le passé, c'est-à-dire par exemple on est en capacité de dire que les naissances domiciliées elles sont en augmentation de 5% par an. Donc naissances domiciliées, c'est les enfants qui sont nés sur le territoire du DIWA. On sait que le territoire du DIWA il est attractif, donc il y a un taux d'enfants de 0-3 ans qui s'ajoute finalement par rapport aux naissances qui ont lieu là. Et on peut aussi, donc ça c'est sur le passé et le présent, donc là on a des données pour pouvoir regarder ça. Et ensuite sur le futur, il nous faut rassembler l'information des projets immobiliers, puisque c'est ça qui va majoritairement, et pas que, hein, puisqu'il y a aussi la question de l'emploi, hein, donc qui peut faire venir ou pas, ou faire repartir des familles du territoire. Mais donc majoritairement, c'est la question de l'immobilier. Donc là, on voit que sur Die, il y a quand même des projets importants d'immobilier. Donc il y a, sur Champ-Queyras, il y aura des maisons d'ici, je crois que c'est 2 ans, hein, la prochaine tranche.
Les petites maisonnettes, oui, ce sera à peu près dans 2 ans. Oui,
d'ici 2 ans. Et puis il y aura d'ici 2 ans également les appartements au-dessus de la nouvelle crèche. Donc sur Joseph Reynaud, il y aura 15 appartements. Donc sur ces appartements, il y aura probablement des familles avec jeunes enfants. Donc ça va augmenter en effet la demande d'une manière importante.
Et puis on passera à l'action, donc avec l'aide financière de la communauté de communes à l'adresse de toute cette organisation de garde et d'aide à domicile, et avec l'aide aussi de la CAF et de la MSA. Est-ce qu'on peut globalement amener le pourcentage d'aide financière de ces deux organismes sur le territoire?
Au niveau de la communauté de communes, en tout cas, en 2017, donc le budget est de 630 000 euros, budget donné aux associations qui s'occupent en tout cas de la petite enfance, enfance-jeunesse. Voilà.
En début d'émission, vous citiez un excédent de l'exercice 2017 de 17 000 euros. Au niveau de la CCD, est-ce qu'il y a un excédent ou alors c'est plutôt l'inverse?
Le budget petite enfance augmente chaque année au niveau de la communauté de communes. C'est un souhait en tout cas du conseil communautaire d'accepter ce développement et la création de nouvelles structures, parce que justement au niveau du territoire, nous ne voulons pas qu'il y ait des accueils uniquement sur les bourgs-centres ou sur la ville de Die, mais nous souhaitons aussi que les zones les plus excentrées de Luz-la-Croix-Haute, par exemple Saint-Nazaire-le-Désert, La Motte-Chalancon, puissent bénéficier des mêmes services que dans les zones les plus peuplées. Donc on tient vraiment à ce qu'il y ait aussi des petites structures, même si elles coûtent un peu plus cher. Nous souhaitons qu'elles existent en tout cas sur l'ensemble du territoire.
Et dans ces villages un peu éloignés du centre du DIWA, il existe des locaux proprement dit dédiés à cette activité, ou alors ils sont à trouver encore?
En général, c'est la municipalité, donc c'est la commune qui met à disposition le local. Dans les micro-crèches notamment, c'est la commune à Boulle que c'est la commune qui a mis à disposition. Sinon, c'est la communauté de communes qui intervient financièrement dans le fonctionnement et l'investissement de ces locaux.
Alors Anouk, la part budgétaire de la CAF et le MSA équivaut à peu près à combien sur le budget global?
Alors, sur la partie des subventions fournies aux associations, on a 45% fournis par la CAF et la MSA et par le département. C'est le département qui soutient le volet jeunesse. Donc, la communauté de communes apporte 350 000 euros qui sont issus des impôts, en fait. Hein. 350 000 euros pour les structures enfance.
Alors, comment se décide une année au niveau de la répartition budgétaire concernant la petite enfance? Ça se décide au niveau de la communauté de communes qui recueille toutes les informations qui viennent de son territoire, de toutes les petites mairies. Et vous avez ensuite la CAF en complément avec le MSA. Et comment ça s'organise pour voir quelles sont les priorités sur le territoire, par exemple?
Mais donc ce sont les techniciens de la communauté de communes, dont à nous, qui recensent les besoins des associations qui sont en charge de la petite enfance dans un premier temps. Ensuite, un budget prévisionnel qui est établi. Et ce budget prévisionnel est passé en conseil communautaire au mois de mars, avril en général. Et donc là, c'est le conseil communautaire qui décide, qui prend les priorités, qui décide si oui ou non ce budget peut être validé. Voilà, quoi, pour l'année en cours.
Et alors, il y a des endroits fort éloignés, comme la Motte-Chalancon, ou alors vous citiez quel village ?
Il y a Luz-la-Croix-Haute, la Motte-Chalancon, Saint-Nazaire-le-Désert, Boulc, et puis il y a Châtillon, Luc et Die.
Voilà, mais ces problèmes de distance, comment vous réussissez à les contrecarrer ? Par exemple, pour du personnel, est-ce qu'il existe suffisamment de personnel sur ces territoires ? Et comment vous pouvez gérer une demande, par exemple ?
Donc, ce sont des structures associatives. Donc, il y a un conseil d'administration de parents, en général, et des salariés avec une directrice. Voilà. Et donc, c'est l'association qui recherche le personnel qui va assurer, en tout cas, l'accueil des petits. Ce n'est pas la communauté de communes qui fait le recrutement, c'est chaque association qui va recruter le personnel. Voilà. Et puis, ils nous transmettent les informations, ils nous transmettent les données financières et c'est à ce moment-là qu'on le passe en budget prévisionnel.
Et en effet, par rapport à cette question de recrutement, on va rejoindre le constat que faisait l'AVAD hein, sur le recrutement, sur les zones éloignées, que ce soit Luz, Rémusat, Saint-Nazaire. Quand ils ont besoin de recruter, c'est souvent difficile sur certains postes, des postes qualifiés, par exemple auxiliaire puéricultrice, et parfois même sur les postes de CAP petite enfance. Donc si on peut passer un message, c'est que sur ce territoire d'Iwa, des personnes qui ont cette fibre de vouloir travailler dans la petite enfance, il y a quand même du renouvellement hein, sur ces postes-là. Il y a souvent de la recherche, donc n'hésitez pas à vous former dans ces domaines-là.
Déborah, donc tout à l'heure, je me suis trompée en citant le budget excédentaire de 17 000 euros pour 2017. Et ce budget excédentaire, il va être converti dans quel domaine pour l'année à venir ?
Le résultat excédentaire 2017 est lié en fait à une impossibilité de remplacer deux salariés administratifs pendant, allez, on va dire 6-8 mois, donc qui ont entraîné une diminution de la masse salariale malgré une charge de travail équivalente. Alors, donc cette situation de toute façon ne pouvait être que temporaire. Au sein de l'association, il y a un certain nombre de pratiques donc qu'on appelle les usages extra-conventionnels, qui sont en fait des modalités d'indemnisation des salariés qui vont au-delà des avantages prévus par la convention collective. Donc parmi eux, on a par exemple l'indemnisation des déplacements à partir du domicile du salarié, moins une franchise de 2,5 km le matin et la même chose donc le soir. Ça, ce sont des indemnisations de déplacement qui ne sont pas prévues par la convention collective. On a également une indemnisation à hauteur de 0,37 centimes du kilomètre et non pas 0,35 comme le prévoit la convention collective, plus deux, trois petites pratiques autres. Et donc l'ensemble de ces usages représente 55 000 euros par an, grosso modo. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une association qui est tarifée, c'est-à-dire que chaque année, c'est le conseil départemental qui fixe notre taux horaire. Et dans son process pour déterminer le taux horaire, il ne prend en compte que les charges qu'il considère légales et conventionnelles. C'est-à-dire que pour lui, le coût supporté ne peut pas aller au-delà de la réglementation. Donc chaque année, on a cette masse de 55 000 euros qui ne sont pas financés et pour lesquels il faut aller trouver des financements complémentaires de par le modèle économique en fait et le calcul de la tarification. Ça ne peut être quasiment que de la subvention ou de l'économie sur de la masse salariale. Donc cette année, sur les 55 000 euros, on aura déjà 17 000 euros qui seront financés. Il nous reste quand même à trouver la différence, à savoir pas loin de 30 000 euros.
Et pour ça, comment ça se passe pour trouver ce complément ? Vous organisez des activités ou alors peut-être quelques festivités pour trouver un fonds à côté de ça ?
Alors malheureusement, on aimerait bien avoir des ressources pour organiser davantage de manifestations. Aujourd'hui, donc, on n'est pas, voilà, on ne déploie pas suffisamment de ressources pour être en capacité d'organiser entre guillemets des lotos ou ce genre de choses. On essaye de se concentrer vraiment sur l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil d'administration comprend environ, je dirais, 12 ou 13 membres de mémoire. L'équipe administrative est composée de 5 personnes, pour beaucoup à temps partiel. Et à côté de ça, donc, on a 80 intervenants au domicile. Donc vous voyez que les salariés administratifs sont quand même bien occupés par l'activité. La seule possibilité que l'on a, c'est d'aller solliciter des subventions exceptionnelles auprès des mairies et donc de transmettre en fait l'importance, notamment dans les zones les plus rurales, d'intervenir, même si le plan d'aide est relativement restreint, parce que des fois on a des plans d'aide où on a l'équivalent par exemple d'une heure par jour, et pourtant le besoin de la personne, c'est de la lever le matin, de la faire déjeuner le midi et de la coucher le soir. Donc une heure par jour, on peut pas grouper l'intervention en lui disant on va tout faire en une heure. Non, il faut bien qu'on intervienne plusieurs fois dans la journée. Et donc on essaye de transmettre aux élus qu'il est indispensable de participer quelque part à la prise en charge de ces usages, parce que c'est grâce à eux que les salariés peuvent intervenir dans les zones les plus rurales.
Je voulais savoir, par rapport à cette activité de l'assistance ou de l'aide à domicile, pour moi, il me semble que cela va de soi de s'occuper des personnes âgées, mais est-ce que c'est rentré dans les lignes budgétaires, ou alors est-ce qu'on vous impose aussi de vous auto-financer par votre propre activité, ce qui est quasiment impossible?
Alors, en fait, on est une association autorisée, donc agréée, autorisée et tarifée. La tarification, ça induit qu'on transmet chaque année au conseil départemental un budget prévisionnel, des charges et des produits. À partir de là, le conseil départemental va nous dire votre horaire est de temps. Mais le principe du calcul se fait sur la base de l'équilibre. Donc en fait, de par le modèle, on ne peut, enfin, un budget prévisionnel est forcément construit à l'équilibre, donc ne peut générer aucun excédent ou déficit en théorie.
Mais est-ce que ça incombe des sacrifices, ce type de comptabilité, par rapport aux personnes ou à des demandeurs?
Ça incombe effectivement des sacrifices, puisqu'on a assez peu de marge de manœuvre, que ce soit en termes de rémunération, on va dire de dépenses exceptionnelles, puisque une fois que le budget est présenté et validé, toutes les lignes budgétaires ne doivent pas être dépassées. Et ne doivent pas être dépassés en plus pour un certain au prorata du nombre d'heures réalisées et déclarées.
Donc c'est une gymnastique difficile propre aux associations. Donc effectivement, on a l'ambition d'équilibrer. Les subventions représentent moins d'1% de notre activité. On remercie d'ailleurs toutes les communes qui investissent d'une certaine manière avec nous pour qu'on puisse continuer à servir nos bénéficiaires. On remercie aussi la communauté de communes. Et le projet, l'expérimentation, je vais revenir un peu dessus, de garde-enfants à domicile, qui est pour moi une ouverture un peu plus importante. Enfin, j'y attache quand même beaucoup d'importance au niveau de l'AVAD. Je pense qu'il y a une réponse à apporter sur le département, sur le territoire du Diwa. Aujourd'hui, on a 5 gardes à domicile d'enfants. On a 2 personnes qui sont diplômées, qui le font. Moi, j'espère que... On est en train de rechercher du personnel. J'espère qu'on va développer cela, parce qu'il y a une demande pour toutes les familles qui sont isolées, qui ont des horaires atypiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'enfance, quoi. C'est là-dessus que je pense que AVAD doit aussi axer son présent.
Comment se met en place l'AVAD sur le territoire?
Alors, l'organisation des interventions se fait par secteur géographique. Donc on a le secteur de Die qui regroupe toutes les communes en 2650. On a les secteurs de Châtillon, donc Châtillon et ses environs, Luc, avec ses environs également. La Motte-Chalancon et Rémusat. On a Saillant et on a le secteur de Doust qui historiquement est lié en fait à l'ancienne association d'aide à domicile de Doust et donc qui regroupe principalement les communes de Oust, Mirabel et Blacon, Piégros-Laclastre pardon, et jusqu'à Cray. Voilà. Et donc l'organisation, les salariés sont recrutés localement. Donc au plus proche des besoins des bénéficiaires hein, pour éviter justement un nombre de... enfin limiter en tout cas le nombre de déplacements et chaque responsable de secteur organise l'activité avec les salariés qui résident sur le secteur sur lequel il y a le besoin. Voilà. Pour de la garde d'enfants, c'est un peu différent puisque les responsables de secteur donc prennent en compte les besoins, voient également quelles sont les possibilités en termes de partage de manière à réduire le coût résiduel et essayent d'associer le secteur géographique. Il y a l'âge de l'enfant, il y a également la professionnelle qui intervient au domicile, qui connaît plus ou moins déjà les enfants. Donc le rôle de la responsable de secteur, c'est d'essayer d'organiser et de planifier tout ça pour permettre la meilleure prise en charge possible pour les enfants, pour les familles et dans le respect des plans d'aide.
Il y aura aussi une campagne de recrutement auprès de l'AVAD.
Pour de la garde d'enfants uniquement. L'AVAD en fait intervient pour de la petite enfance pour des prestations de garde à domicile d'enfants de moins de 3 ans. Les recrutements qui sont en cours sur la partie garde d'enfants, on a je pense à la rentrée 2 ou 3 postes d'ouverts. Au vu des demandes hein, que l'on a actuellement. Et sur la partie personnes âgées, personnes handicapées ou familles, mais plus sur l'aspect aide aux familles, telles que les prises en charge TISF ou CAF, on est régulièrement sur des postes ouverts. Alors là, à l'heure actuelle, pour les remplacements d'été, tout réparti, enfin tout confondu, quel que soit le secteur, on est à peu près à 8 ou 10 postes.
Si c'est pour l'été, donc vous lancez un appel à recrutement. Et comment ça se passe pour des personnes qui voudraient aborder ce travail? Et d'ailleurs, quelles sont les compétences demandées précisément?
Le propre de notre activité, c'est en fait qu'il nous faut intervenir pour aider le maintien à domicile. Donc quelque part, quand on a une demande, on est toujours dans l'urgence. Alors, on est dans l'urgence parce qu'on prend en compte un besoin qui s'accroît. Donc, il nous faut des salariés. On a également des besoins en termes de remplacement, soit pour congé, soit pour maladie. Donc, voilà, effectivement, le besoin est urgent puisqu'on s'attend à avoir une augmentation des besoins au cours de l'été. Mais de toute façon, c'est un process qu'on connaît puisque c'est un peu comme ça que... on se heurte un peu à ça tout au long de l'année. Au niveau des formations, on recrute effectivement des salariés qualifiés, donc soit pour des postes d'employés à domicile, soit pour des postes d'auxiliaires de vie sociale, donc qui sont pour des actes principalement orientés, en tout cas pour des actes de la vie essentielle tels que le lever, le coucher, la prise de repas ou l'intervention auprès de personnes fortement dépendantes. Mais on recrute également des salariés qui n'ont pas forcément de qualification, qui ont juste le souhait d'intervenir, de découvrir en fait ce secteur d'activité. Voilà. Et pour la garde d'enfants, en revanche, on exige un CAP petite enfance et une expérience, que ce soit sur de la garde au domicile ou une expérience également en structure, de manière à pouvoir garantir aux familles la bonne prise en charge de leurs enfants.
Alors, comment s'organise ce recrutement? Il y a un site internet ou des locaux pour s'y rendre?
Alors, toutes les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature au siège de l'association, donc qui se trouve depuis le 1er février dernier dans les anciens locaux de Maître Sanier, donc 7 places du marché à 10. Et nous, on orientera donc selon les secteurs vers vers les responsables qui ont en charge les recrutements. On a également un site internet sur lequel les gens peuvent trouver toutes nos coordonnées. Et puis, on diffuse actuellement des annonces sur divers sites, donc Le Bon Coin, Pôle emploi, etc. Il ne faut... Alors, même si des offres ne sont pas forcément visibles ou ouvertes à un instant T, il ne faut pas hésiter à transmettre une candidature spontanée, puisque nous, on conserve toutes les candidatures spontanées et qu'en cas de besoin, on va contacter les gens qui nous ont adressé leur candidature précédemment.
Je pense que ça serait intéressant de dire concrètement, une famille qui a un besoin aujourd'hui de garde d'enfants, comment elle fait ? En fait, on a deux messages. On a un message à l'adresse des familles qui dit, pour leur dire il existe ça, comment on s'y prend. Et on a un autre message à l'adresse, ce que je disais tout à l'heure, à l'adresse des familles, ce que Déborah a dit à répétition. Les gens qui aimeraient travailler là-dedans, il y a vraiment un besoin sur le territoire et il y a de quoi créer un travail d'une manière ou d'une autre, que ce soit en garde à domicile via la VAD ou même directement, que ce soit assistante maternelle, quelqu'un qui voudrait travailler chez soi pour devenir assistante maternelle, ou en maison d'assistante maternelle, donc travailler dans un collectif d'assistantes maternelles dans un lieu professionnel. Donc une famille qui a un besoin de garde d'enfants à partir de la rentrée, comment elle s'y prend ? Elle va d'abord aller voir le relais assistante maternelle pour préciser son besoin, voir toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Mais j'imagine que c'est au mois de juillet, là maintenant, à l'heure où vous nous écoutez, vous avez déjà parcouru et questionné toutes les possibilités. Mais sur donc celle qui fait l'objet de l'interview aujourd'hui, c'est la garde à domicile. Donc la personne va pouvoir discuter avec le relais assistante maternelle de l'intérêt d'employer quelqu'un à domicile directement ou de passer par la VAD et les aides qui existent, de voir aussi s'il y a d'autres familles qui ont le même besoin sur le même secteur, donc de pouvoir se regrouper. Et ensuite, à partir du moment où ce besoin-là est bien clair et quelle est l'autre famille avec qui je peux me regrouper, la famille, elle va donc s'adresser à la VAD et faire une demande de prestations garde à domicile.
Alors, Denis Hiller, vous allez vous-même vous occuper de la VAD prochainement. Quelles sont les perspectives que vous voyez pour la VAD dans les années qui viennent, je suppose ?
C'est une bonne question. Donc ben, les perspectives, elles sont simples, c'est qu'on travaille à la fois continuer à développer nos prestations de manière qualitative, sortir les personnes de leur isolement, pour en revenir à la partie de la garde à domicile, et pour reprendre en fait ce qu'a dit Anouk, nous on récupère, on va rencontrer les personnes qui auront fait la démarche de se renseigner, on va préparer effectivement un devis, on va calculer les aides nécessaires, on va leur donner le nom de la personne, le salarié qui va s'occuper du suivi de l'intervention, voir si on peut aussi avec la personne trouver une solution de garde partagée pour minorer d'autant plus le coût. Voilà, c'est l'ambition d'Avad aujourd'hui sur le dossier, en tout cas de la garde à domicile, c'est de continuer l'expérimentation telle qu'il a il a démarré et d'essayer de le développer au mieux. Je pense qu'il y a un besoin, il faut répondre à ce besoin. C'est l'émission de l'Avad, c'est une des missions de l'Avad aujourd'hui. Pour le reste et pour l'ensemble de ses prestations, ben l'Avad travaille sur la qualité de service, le développement en fait des équipes, hein, la recherche des salariés, des bons salariés si je puis dire, et puis de continuer à travailler sur les personnes qui sont isolées, quelle que soit leur situation.
Et du coup, concrètement parlant, la famille, quand elle aura son devis et la personne qui va intervenir chez elle, elle va pouvoir décider de passer un contrat avec la VAD. Et ensuite, elle va devoir donc payer cette facture qu'elle aura auprès de la VAD et faire une déclaration auprès de la CAF pour toucher les aides CAF. Donc les aides CAF, c'est bien la famille qui doit finalement faire l'avance, payer sa facture auprès de la VAD et ensuite toucher les aides CAF et l'année d'après, toucher le crédit d'impôt. Donc en effet, fait. Ce système-là, il est intéressant parce qu'il est réactif, il permet une prise en charge sur des horaires atypiques ou des périodes où il n'y a pas trop d'autres solutions sur le territoire. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même de l'avance de trésorerie, avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir faire cette action-là.
On est dans le début en fait de l'action. Donc c'est vrai qu'en termes de facturation, il nous reste encore peut-être quelques ajustements à faire ou quelques évaluations en termes de réactivité. Ce qu'on essaye de faire pour éviter une avance trop longue de trésorerie, c'est d'indiquer aux familles qu'elles peuvent patienter quelques jours avant de régler la facture. Et puis dès qu'elles ont de nous transmettre leur règlement et dès qu'elles ont l'information de la part de la CAF que le remboursement intervient, on encaisse en fait le règlement. C'est vrai qu'on demande malgré tout les règlements de manière à pouvoir gérer nous aussi notre trésorerie et puis éviter un certain nombre d'impayés, hein, comme on fait là. Enfin, voilà, c'est quand même un certain nombre d'interventions à taux plein. Mais on est ouvert à.
Une souplesse,
de manière à éviter de mettre les familles en difficulté.
Marilène Moucheron, vous, en tant que vice-présidente de la communauté de communes du Diois, comment voyez-vous l'avenir pour la petite enfance ? Est-ce que l'optique est plutôt bonne à venir ?
Je pense qu'il y a vraiment un besoin exponentiel qui se traduit actuellement au niveau d'accueil. Donc la communauté de communes a vraiment le souci d'être là au plus près des besoins des habitants et au plus près de l'ensemble du territoire, de toute façon. Donc c'est vrai que pour le moment, nos partenaires sont très actifs aussi, la CAF, le département plus pour la jeunesse, mais c'est vrai que nous avons quand même des partenaires qui sont aussi soucieux, en tout cas, du bien-être de nos plus petits, puisque ce n'est pas seulement l'accueil des enfants, mais c'est aussi la dynamique de tout le territoire, que les parents puissent venir s'installer par ici, puissent trouver du travail, puissent habiter les villages, puissent faire tourner les écoles. Donc ça va beaucoup plus loin que le simple accueil, en tout cas, de la petite enfance. Donc je pense que nous mettons vraiment un soin particulier à cette compétence. Et je voulais remercier, en tout cas, la de nous avoir permis cette action expérimentale sur la garde à domicile partagée et sur les horaires atypiques, parce que seuls nous n'aurions pas pu le faire. La communauté de communes ne peut pas intervenir, elle, directement auprès des habitants, mais passe par une association pour ce travail. Voilà.
Merci.
Dans la même lignée, c'est vrai que sur le territoire, l'avenir de la petite enfance, il dépend aussi de ces associations qui donc développent les multi-accueils et les micro-crèches. Qui dit association dit des parents administrateurs, donc qui font fonctionner au quotidien cette structure, et les équipes qui travaillent tous les jours avec les enfants, auprès des enfants. Donc c'est vraiment important, c'est une entreprise avec vraiment plusieurs acteurs, donc c'est avant tout grâce à eux, grâce à ces professionnels et ces parents qui pilotent ces associations, que peuvent se développer et s'adapter tous les services enfants sur le territoire. Pour s'adresser au relais assistante maternelle, il y a deux créneaux de permanence, donc le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 10h à midi. Donc je répète, hein, une famille qui a un besoin de garde à domicile peut aller au relais assistante maternelle ou un besoin de garde d'enfants pour savoir quelles sont les solutions. Et aussi, une personne qui voudrait développer un projet professionnel, que ce soit à son domicile comme assistante maternelle ou dans un domicile partagé comme assistante maternelle, donc dans un autre lieu partagé, ce qui est les maisons d'assistante maternelle, ce sont les mêmes permanences du relais assistante maternelle pour prendre les renseignements.
Je remercie Déborah Gazi, ensuite Denis Hiller.
Merci.
Marilène Moucheron et Anouk Avon d'être venus nous parler. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Interview.
Okay. The bird.
L'interview du jour.